Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
Décryptage, Philippe Delaroche.
Bonsoir. Face à la faillite de l'humanisme, que répond le christianisme ? Une émission un peu particulière ce soir. Bon, je dois dire qu'elle est provoquée par la lecture d'un ouvrage particulièrement stimulant, d'une grande densité, d'une grande originalité aussi, bien entendu, et d'une ambition considérable. Ça arrive rarement. Je voulais saisir cette occasion donc d'accueillir à cette émission de décryptage Laurent Fourquet. Bonsoir Laurent Fourquet.
Bonsoir Philippe Delaroche.
Laurent Fourquet, vous êtes normalien, agrégé de sciences sociales, énarque, haut fonctionnaire. Dans votre bibliographie, on a déjà relevé deux ouvrages. L'ère du consommateur, qui était paru au CERF donc en 2011. C'est un thème qu'on va retrouver d'ailleurs dans votre nouvel ouvrage. Et puis Le Moment M4, c'était paru chez François Bourin en 2014. Ces jours-ci, vous publiez un essai qui s'intitule froidement « Le christianisme n'est pas un humanisme », un ouvrage de 320 pages, donc paru chez Pierre-Guillaume Deroux, 26 €. Et c'est une lecture que je recommande très chaudement à nos auditeurs et partout autour de moi. Et il m'a semblé à vous lire, Laurent Fourquet, que vous pouviez vous trouver dans un débat, pas forcément contradictoire d'ailleurs, avec un autre philosophe, même si vous êtes agrégé de sciences sociales, je sens bien quand même que vous êtes essentiellement philosophe, critique bien sûr, Laurent Fourquet. En l'occurrence, il s'agit de Frédéric Guillot. Bonsoir Frédéric Guillot.
Bonsoir.
Frédéric Guillot, vous aussi, vous êtes normalien, agrégé de philosophie. J'avais l'occasion de vous recevoir pour votre ouvrage Catholics Reloaded, qui était paru au CERF donc en 2015, qui le sous-titre était Essai sur la vérité du christianisme, et lui-même faisait suite à un précédent qui était Dieu existe, paru en 2013, donc il y a 5 ans, et qui lui, en sous-titre, portait Arguments philosophiques. Oui. Alors, pourquoi j'ai pensé à vous réunir l'un et l'autre ? Eh bien parce que il est question bien sûr de la raison dans votre propos, et surtout chez Laurent Fourquet, des limites d'une raison, si je puis dire, arraisonnante. Hein. Vous revenez sur les limites du discours philosophique, Laurent Fourquet, vous commencez même en liminaire par cet aspect-là. Et quant à vous, Frédéric Guillot, vous expliquez dans vos ouvrages que le christianisme est croyable, oui. Pas seulement sous l'effet d'une effusion mystique, mais simplement parce qu'avec des ressources, encore une fois, de l'expérience, on pourrait dire, du monde sensible, d'une part, et de la logique qui est censée être le propre de l'homme, on peut aboutir à la conclusion que Dieu existe sans forcément s'encombrer de religiosité, de fiches, ou de tout ce que l'anthropologie nous apprend sur la dimension religieuse de l'homme. Laurent Fourquet, quand vous dites que le christianisme n'est pas un humanisme, vous prenez évidemment le contre-pied d'idées reçues, en particulier celle qui consisterait à dire que le christianisme est à la source de l'humanisme moderne, même si maintenant on parle de l'humanisme post-moderne, ou éventuellement qu'il est un sous-produit. Mais quand on parle évidemment du lien entre christianisme et humanisme, on considère que le christianisme est une matrice d'une certaine façon périmée, vide, creuse, et que c'est aujourd'hui, disons, le discours humaniste lui-même, si je puis dire, justifié par un alibi, la question de l'horizon du progrès, qui peut faire l'impasse et qui peut quelque part tourner le dos complètement, évidemment, au christianisme. Qu'est-ce qui vous a décidé parce que j'ai remarqué une chose, c'est que le titre est négatif, le christianisme n'est pas un humanisme, mais vous finissez, hein, dans la cinquième partie de votre livre, par un christianisme affirmatif, comme si vous aviez craint d'une certaine façon qu'on reste sur cette idée négative. Laurent Fourquet.
D'abord, le titre, c'était un petit clin d'œil hein, à l'ouvrage de Sartre sur l'existentialisme est un humanisme. Donc, j'ai voulu
lui renvoyer la balle,
en quelque sorte, en disant le christianisme n'est pas un humanisme. C'est en effet la base sur laquelle s'est construit ce livre. Parce que présenter le christianisme comme l'anticipation de l'humanisme, c'est en gros, pour l'humanisme, liquider le christianisme en faisant de celui-ci un simple commencement, en quelque sorte, dans une histoire qui s'écrit désormais sans lui. Alors, cette vision des choses, elle est souvent aujourd'hui endossée, y compris parmi les intellectuels chrétiens. Et je pense qu'elle est, elle néglige totalement l'originalité fondamentale du christianisme, qu'il est de dissocier de l'humanisme. Alors, certes, je prends la comparaison à un certain moment des planètes qui tournent autour d'un soleil. On a des planètes, en fait, dont les orbites se rapprochent, mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes planètes. C'est des planètes différentes. Des fois, il y a des valeurs qui paraissent proches, une manière de dire les choses qui est proche, mais ça part d'un foyer central qui est totalement différent. Et pour moi, c'est bien le cas.
Alors, nous, chrétiens, on a aussi le souvenir, ce risque de confusion, dites-vous, entre humanisme et christianisme, il tient en fait que les chrétiens eux-mêmes se sont réclamés, on pourrait dire, de l'humanisme. Et souvenez-vous, évidemment, de Jacques Maritain. Est-ce que vous pensez que c'est ce type de pensée ou de propos qui quelque part, travaille à la confusion entre l'un et l'autre, l'humanisme et le christianisme?
Alors, d'abord, peut-être parenthèse, je ne m'inscris pas du tout dans une logique de retour en arrière, en quelque sorte, identitaire ou nostalgique d'une chrétienté défunte. Hein, ce n'est pas du tout le propos. Après, je pense qu'un certain nombre d'intellectuels chrétiens ont cédé à la tentation, en réalité, de vouloir raccrocher le christianisme au wagon humanisme en disant, comme ça, on va
le
montrer
sauver,
voilà,
dites,
que le christianisme
pour garder quelque chose.
Et qu'il est quand même moderne, qu'il est dans le paysage, même si c'est de manière subliminale. Je pense que c'est un jeu qui est perdant. À mon sens, c'est un jeu qui est perdant parce qu'au bout du compte, on vous dit, si c'est que l'anticipation de l'humanisme, pourquoi ne pas être simplement humaniste? Et pourquoi se contenter? Pourquoi vouloir y introduire en plus une dimension religieuse? Ou alors, maintenez une vague coloration sacrée, spiritualisée, mais s'il vous plaît, en parlez le moins possible, soyez le moins différent, et puis acceptez de parler du christianisme en termes strictement humanistes. Et c'est cette facilité que je réfute.
Et donc suiviste ou mimétique, parce qu'encore une fois, vous dites que l'humanisme est l'idéologie dominante, voilà, et qu'on ne peut pas s'y opposer d'une certaine façon.
Pour moi, c'est une forme de figure de l'aliénation. C'est-à-dire qu'en penser le christianisme à partir des termes humanistes qui sont aujourd'hui dominants en Occident, c'est accepter de le définir par rapport à ce qu'il n'est pas, ce qui est quand même une des définitions les plus pures, me semble-t-il, du terme d'aliénation.
Merci Laurent Fourquet. Frédéric Guillaume.
Le serpent dit, vous serez comme des dieux. C'est ça l'humanisme. Alors, si c'est cela l'humanisme, je veux dire, alors effectivement, c'est antichrétien, mais c'est même pire. Enfin, si je puis dire, c'est contre toute raison, à mon sens. C'est-à-dire que même les Grecs n'étaient pas humanistes en ce sens-là. Sauf les sophistes ou Protagoras, mais vous prenez Platon ou Aristote, ou la grande pensée grecque, ou même les stoïciens, ils sont pas humanistes en ce sens-là. Ils considèrent absolument pas que l'homme soit le grand définisseur de l'être, du bien, du mal, etc. C'est l'hubris absolue. Donc, en fait, christianisme et philosophie classique se retrouveraient dans le même camp contre cet humanisme fou. Voilà.
Laurent Fourquet, on peut s'orienter dans son époque en vous lisant, je pense, et c'est ça que c'est aussi censé servir parfois la philosophie. Qu'à la philosophie, non arrogante. Qu'est-ce qui vous permet de vous démarquer et, j'ai envie de dire, de lire de façon aussi radicale ce monde? Parce que quand vous parlez d'humanisme, vous expliquez, vous associez bien sûr ce que vous appelez l'obsession du pouvoir, du juridisme, la volonté de détermination, etc. Mais à la fin des fins, c'est, dites-vous, le néant. Et le néant, c'est ce qui nie la vie. Et on ne pourrait pas raisonner, évidemment, si la vie n'était pas à l'origine de notre, non pas seulement notre existence, mais ce qui nous permet d'être conscient. Alors, comment faites-vous pour ne pas parler comme un perroquet, comme nous sommes parfois tentés de le faire? Parce que nous baignons dans ce discours humaniste et nous nous méprenons souvent.
Alors,
Laurent Fourquet.
D'abord, premier point, moi, je suis d'accord avec Frédéric Guillot lorsqu'il dit qu'il faut définir les termes avec précision, parce qu'aujourd'hui, humaniste, c'est un fourre-tout conceptuel, en réalité, qui sert de carte d'identité spirituelle, je dirais, à l'occidental cultivé de nos grandes villes. Je vais vous dire une anecdote. Moi, quand j'ai sorti mon titre, là, « Le christianisme n'est pas un humanisme », j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a posé la question de savoir si c'était un livre chrétien ou anti-chrétien. Parce que pour lui, il valorisait tellement l'humanisme en tant que tel que ça lui paraissait absurde.
On se présente, ça pourrait être une objection
disant,
au
christianisme. Alors, il a fallu que je lui explique que non, que je retournais l'argumentation. Mais c'est intéressant parce que c'est le lieu commun partagé par tous. Et donc, ce que je développe dans le livre...
Déjà une ambiguïté.
Voilà. J'essaye d'analyser, en fait, l'humanisme très clairement en expliquant que c'est une idéologie, c'est-à-dire un système qui valorise, pour le dire simplement, l'appropriation des choses, du monde, de l'homme au sein de ces choses, à partir de la pensée de la raison. Et donc, en fait, c'est une valorisation en tant que telle du processus de détermination rationnelle du monde.
De la raison, mais aussi du désir.
Alors,
de ce qui va avec, la convoitise,
de tout ce qui va avec, c'est-à-dire la raison, c'est un moyen au service, me semble-t-il, d'une fin qui est une fin de pouvoir. Pouvoir sur les choses, pouvoir d'appropriation du monde par l'homme au service de l'homme.
Et puis pouvoir de neutralisation.
Alors, c'est un très grand trait, parce que j'explique liberté. Ensuite dans l'analyse qu'en réalité, à la fin, cet homme qui au départ est le grand déterminant, celui qui va s'approprier le monde, il finit par être lui-même victime du processus qu'il a lancé, en étant lui-même déterminé.
C'est ce que vous dites, le renversement. Par
cette pensée, voilà. Ce qui fait que si on pousse la logique humaniste jusqu'à son terme, qui est, me semble-t-il, notre époque, en réalité, on aboutit au phénomène rigoureusement inverse. Partant d'une approche prométhéenne de maîtrise du monde par l'homme,
positive.
On arrive à une approche que je qualifie de nihiliste, mortifère. Qui est l'approche de notre époque, une approche mortifère, une approche qui s'oppose à la vie, parce que l'homme, loin d'être déterminant, n'est plus aujourd'hui qu'un déterminé parmi d'autres.
Ça peut l'arroser. Peut-être
le déterminé le plus important. Prenons un exemple, parce que tout ça peut paraître un peu abstrait. Regardez toutes les firmes qui aujourd'hui travaillent sur l'approche du comportement du consommateur, sur la capacité à prévoir, à déterminer ce qu'il va consommer, la manière dont il va se comporter. Et cette approche, elle n'est pas limitée au commerce. Elle se développe de plus en plus dans des domaines, dans des champs comme l'idéologie, par exemple la pensée, les représentations mentales. Voilà ce que l'on attend, en fait, parce qu'on a des données en ce sens de ce que l'homme va penser.
La traçabilité. Et
donc, voilà ce qu'on va produire pour cet homme qui est devenu éminemment prévisible. C'est ce que j'appelle ce retournement qui, de l'humanisme, nous amène vers le nihilisme. Alors, c'est intéressant parce que, en réalité, dans mon cheminement intellectuel, je suis parti d'abord du nihilisme pour arriver vers l'humanisme. Je m'explique. Mon premier livre, consacré à l'ère du consommateur, était une réflexion sur notre époque pour essayer de montrer comment le phénomène de la consommation gouvernait notre époque. Alors, quand je dis la consommation, c'est pas seulement la consommation au sens d'agrégat économique classique. C'est plutôt un fait anthropologique tel que notre rapport aux autres, à nous-mêmes, à notre corps, à l'être aimé, aux gens qu'on croise dans la rue, au monde, est un rapport qui est de plus en plus un rapport de consommation, c'est-à-dire d'appropriation intéressée de ceci. Et donc ça me paraît toujours être la caractéristique fondamentale de notre modernité. Et ensuite, j'ai essayé, parce que ça m'intéressait, de comprendre d'où ça venait.
J'essaie de comprendre ce que vous dites par le consommateur, c'est la même chose que la recherche constante de l'intérêt.
Oui,
c'est pas seulement consommer un Big Mac ou du carburant, c'est la recherche
c'est
de l'intérêt.
Non, c'est consommer les choses, c'est de voir en toute chose, en réalité, qu'est-ce que ça m'apporte à moi en termes d'intérêt,
une occasion de majoration
de mon capital.
Une occasion de jouissance.
Voilà. Et donc, je suis parti de là en me disant d'où est-ce que ça vient. Le livre tel qu'il est là, Le christianisme n'est pas un humanisme, c'est un essai de réflexion pour essayer de montrer que, contrairement en réalité à ce que beaucoup voudraient nous faire croire, l'humanisme n'est pas l'antidote à ce consumérisme. L'humanisme occidental classique,
tel qu'il s'est construit au XVIIIe siècle, c'est une imposture.
Pour moi, en réalité, c'est une imposture au sens où c'est ce qui a généré, en réalité, au terme du processus, cette approche nihiliste du monde, qui est une approche de consommation intégrale de celui-ci, par l'intérêt. Et que donc, tout propos consistant à dire « Mon Dieu, le monde actuel n'est pas très beau, il est gouverné par l'intérêt, par le cynisme, par la manipulation », hop, revenons à la grande époque de l'humanisme du 18e, du 19e siècle pour nous protéger, ça n'est qu'un leurre. C'est un leurre parce qu'en réalité, ça nous ramène vers un chemin qui nous reconduira inéluctablement vers le nihilisme qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle j'essaie de montrer en fait comment le christianisme s'affranchit en réalité par rapport à l'ensemble des logiques de l'humanisme. Et donc, s'il est vécu authentiquement, est aujourd'hui notre seule chance de sortie de cet enfoncement de nihilisme qui est de plus en plus profond.
Vous dites que humanisme et christianisme s'excluent réciproquement.
Oui, parce que je pense qu'à la base de l'humanisme, il y a un processus qui relève au fond de ce que Nietzsche appellerait la volonté de puissance, qui est l'appropriation du monde, en fait, pour la domestication de celui-ci. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut en revenir à l'âge de pierre.
C'est le déni de la dette.
Mais c'est le déni de la dette, c'est le déni, en réalité, du don, de tout ce qui nous est donné, de manière à considérer les choses. Les choses, c'est aussi nous-mêmes, nous comme sujet, comme en réalité, imposer là, qui ne s'appartient pas, qu'on peut interpréter, dominer, façonner. Et donc je pense que le christianisme, encore une fois, s'il est vécu authentiquement, possède en lui une capacité à mettre en question ce processus d'appropriation pour expliquer que ce qui est fondateur dans le monde, ce qui enrichit vraiment celui-ci, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas l'appropriation, c'est le don. Le don de soi, le don.
Et qui suggère aussi éventuellement la co-création ou la... Ou en tout cas une entreprise, une action qui s'inscrit dans le respect de la création.
Oui, je suis persuadé que c'est dans un regard, en réalité, qui regarde les choses comme confiées à notre gérance, à notre intendance, et non pas livrées à notre bon plaisir de propriétaire ivre de faire ce qu'il a envie de
donc,
faire.
Donc locataire voilà. Plutôt que propriétaire.
Locataire, on serait encore juridique. Du côté de l'intérêt. J'emploie le terme de l'intendant, parce que le terme de l'intendant oui. Est un terme qui paraboles. Revient fréquemment dans, oui. Les, dans les paraboles, et qui est, oui. Ça nous est confié, le locataire, il a peur du propriétaire. L'intendant, il a confiance dans le maître, si c'est un bon intendant.
Et,
ben, en fait, oui. J'ai une nuance, c'est-à-dire je suis tout à fait d'accord, et j'admire beaucoup la description que vous faites du retournement de l'outil économique, pourrait-on dire, qui, devenu machine, fait de nous des rouages
des appendices.
D'elle-même, voire du carburant pour faire tourner une machine qui poursuit des fins qui ne sont plus du tout les nôtres. On ne sait plus très bien à quoi sert l'économie, en réalité. Nous sommes à son service. Bon, alors, là où j'ai une nuance, c'est que je voudrais parler en faveur de la raison, disons. Pour la
oui,
défendre.
Vous savez que c'est un des thèmes favoris de Benoît
oui,
XVI.
Mais tout à fait. Alors, mais je pense qu'il y a simplement, là encore une fois, une question de définition, parce que ce serait sinon une fausse querelle. Mais la raison dont vous parlez et qui vous semble mener quasi automatiquement à ce développement absurde vers le nihilisme, c'est la raison technique. C'est la science mathématisée, si je puis dire.
Le tout concept.
Non. Je pense plutôt que c'est c'est un secteur de l'activité rationnelle qui s'est finalement transformé, à savoir la science mathématisée, qui a acquis le statut de seul type de connaissance légitime, seul type d'activité rationnelle amenant à une connaissance considérée comme véritable, alors que cette prétention, si vous voulez, est fausse. La raison philosophique, la métaphysique ont droit de défendre leur vision. Et or, elles aboutissent à l'idée, je termine rapidement là-dessus, que l'homme a une nature et que cette nature a une fin et que la finalité propre de l'humain, pour vous faire la chose très rapidement, c'est de contempler l'être et ultimement l'être suprême.
Okay. Alors on va y venir dans une seconde, Frédéric Guillot. Dans l'immédiat, nous devons marquer une pause, une pause musicale avec l'Ave Maria chantée par Pavarotti et Dolores O'Riordan.
Radio Notre-Dame.
Gloria plena.
C'était l'Ave Maria, chantée par Pavarotti et la regrettée Dolores O'Ryan. Cet Ave Maria, c'était histoire évidemment de revenir, si je puis dire, au monde sensible, au chant, à la voix, évidemment, et au christianisme. Vous évoquiez un instant, Frédéric Guillot, une définition de la raison. Quelque part, vous la sauvez davantage que Laurent Fourquet, dans le sens que vous avez signalé. C'était un thème quand même. Puisque l'Église, dans les temps modernes, s'est sentie régulièrement accusée justement de mépriser la raison, le discours scientifique. Or, on sait que depuis 20, 25, 30, 40 ans, au contraire, elle insiste beaucoup sur, évidemment, la valeur de l'intelligere, oui. N'est-ce pas?
Je voudrais dire une chose importante, c'est que mon livre n'est pas une apologie de l'irrationnel, en quelque sorte, ou du fidéisme. C'est une réflexion sur la raison et les limites de la raison. Mais quand on parle de limites, on ne jette pas la raison aux orties. Bien sûr. Réfléchit sur ce qu'elle ne peut pas. Je dissocie assez sensiblement dans mon propos ce que j'appelle la pensée occidentale, qui est en fait le mouvement de réflexion sur le monde, et qui est évidemment un mouvement légitime, et qu'il est hors de propos et de question de mettre en cause en tant que tel. Mais il y a la pensée et il y a l'idéologie de cette pensée. L'idéologie de cette pensée, c'est ce qui fait, en fait, de cette pensée, la seule manière de comprendre, légitime, de comprendre, de pénétrer le monde. J'explique que là, nous sortons du champ de la raison pour entrer en réalité dans des logiques qui ne sont plus des logiques de pensée sensu stricto, mais qui en sont des logiques de réassurance, en réalité, qui permettent de se donner bonne conscience dans l'appropriation du monde. Et donc, ce que je mets en question, ce n'est pas encore une fois le fait qu'il y ait une pensée qui réfléchisse sur le monde, bien sûr que non. Ce que je mets en question, c'est le fait de valoriser la raison, en fait, scientifique, scientiste, technique d'appropriation du monde, en considérant celle-ci comme la seule manière à la fois légitime, souhaitable, voulue, d'aller vers le monde. Parce que j'explique qu'à mon avis, cette idéologie, cette valorisation obsessionnelle, c'est le moyen sûr d'arriver à l'assèchement du monde que l'on connaît aujourd'hui.
Donc ça, c'est le nihilisme.
Voilà. Et donc, pour moi, le christianisme, par rapport à ça, ça n'est pas une forme de fidéisme, où il faudrait dire, comme Tertullien, credo quia absurdus, je crois, parce que c'est absurde, en disant « je saute dedans en fermant les yeux ». Ce n'est pas du tout ça. C'est de se dire, il y a le rationnel, je prends en compte les choses, la raison, mais à un certain moment, je ne suis pas dupe. Je sais qu'il y aura un pas où je devrais aller plus loin, et ce pas pour moi, c'est celui de la foi, celui du pari sur lequel je m'appuie en reprenant l'argument célèbre de Pascal dans ses pensées.
Vous dites qu'il nous rappelle que, un, on n'a pas le choix, il faut parier, parce qu'on est embarqué. Et le deuxième temps, si je puis dire, c'est que un grossier calcul de probabilité fait évidemment ressortir l'intérêt qu'il y a à miser si peu pour gagner tant.
Ce qui est très fort dans l'argument du pari de Pascal, c'est qu'il est à la fois suprêmement rationnel et en même temps suprêmement au-delà de toute raison. Il est suprêmement rationnel parce que du début jusqu'à la fin, c'est un raisonnement mathématique, en réalité, qui explique, avec les termes du XVIIe siècle, hein, qu'on devrait avoir toutes les raisons de croire. Et en même temps, il n'est pas dupe de cet argument, parce qu'il sait bien qu'il ne convaincra jamais, en réalité, l'homme, parce que l'homme, justement, résiste au fond de lui à cette approche strictement rationnelle. C'est une approche de type de liberté, effectivement.
Et donc, c'est raisonnement par l'absurde, d'ailleurs.
Il faut lui dire, tu vois, je suis capable de t'amener très loin sur les chemins du rationnel, et en même temps, je vais t'amener encore plus loin, à faire un bond par-dessus, et à reconnaître qu'à un moment, tu n'auras d'autre choix que de parier, c'est-à-dire faire un choix sans avoir la certitude du gain final.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on est plus sensible à la parole du serpent qui vous dit « vous serez comme des dieux » qu'à la parole de Dieu?
Ça, c'est depuis le début de l'histoire qu'il faut se poser cette question-là. Pourquoi? Parce que je pense que ça nous rassure foncièrement. L'humanisme, tel que je l'ai défini, est une idéologie. Une idéologie, c'est quelque chose qui est là pour nous rassurer. Elle est là pour nous rassurer. Alors, je le dis de manière un peu provocatrice.
Et vous dites qu'elle nous rassure de moins en moins.
En nous empêchant de penser, en nous apportant un cadre tout fait sur les choses. Et en plus, nous troquons en réalité le vrai questionnement contre ce que nous estimons être le pouvoir sur les choses. Simplement, ce dont nous apercevons pas, c'est que ce pouvoir sur les choses devient un pouvoir sur nous.
Vous parlez de faillite hein, de l'humanisme, Laurent Fourquet, et vous dites qu'il n'y a pas seulement le doute que secrète cet humanisme qui est censé nous rassurer, mais qui en réalité nous trouble, nous angoisse. Vous dites ensuite vient le désenchantement, et pourquoi pas demain le désespoir. Comment vous lisez, qu'est-ce qui manifeste ça, ce désenchantement?
Oh, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, hein. Nous vivons, c'est l'esprit même de l'époque qui consiste à tout avoir et en même temps avoir le sentiment qu'il nous manque l'essentiel. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, en fait, hein, qu'on reçoit chez beaucoup d'autres.
Il y a des droits qui ne sont pas encore
satisfaits. Non, je pense que c'est... Enfin, il y a cette idée qu'on a tout. Enfin, je parle des Occidentaux dans les grandes villes, en fait, appartenant à une certaine classe. Qu'on a tout et que donc puisqu'on a tout, on devrait être heureux. Or, on ne l'est pas. Et pourquoi on ne l'est pas la question, elle est là.
Je crois que le problème, c'est l'absence de fin, de finalité, de but.
De téléologie.
Tout à fait. La rationalité scientifique a complètement purgé.
Vidé.
Comme on vide un poisson ou un poulet, l'humanité de toutes ses fins, de toute son...
Et de ces des lignes de fuite, des points d'appui extérieurs.
Et donc, elle a fabriqué, si vous voulez, une civilisation dont la seule fin est la multiplication des moyens, moyens de transport, moyens de communication, moyens financiers, même tout simplement, qui tournent de plus en plus vite, dans lesquels nous nous vantons en permanence de pouvoir faire passer de plus en plus de voyageurs, de messages, etc. Mais tout le monde voit bien que le manque, c'est le contenu. Les gens communiquent de plus en plus sans avoir rien à se dire, se déplacent sans aller nulle part, d'une certaine manière.
C'est le monde de Beckett.
Exactement. Et donc, c'est un monde d'absolutisation du moyen. C'est le monde de la technique, du grand dispositif. Et la question de savoir ce que nous poursuivons et ce qui serait digne d'être poursuivi, nous n'avons plus le temps de la poser pour y répondre. On se dit qu'on y répondra plus tard, quand on aura un peu plus de moyens. Et ainsi de suite. Et je pense que la rationalité instrumentale, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est arroger le droit de s'appeler toute seule la raison, alors qu'elle n'est pas la raison. Oui. La raison et avec est capable de nous sauver aussi.
Bien sûr.
Aussi.
Mais ce qui est terrible, c'est que dans ce constat de faillite, il y a des synonymes à la raison. Et par exemple, le droit est un des synonymes de la raison, non ?
Alors, c'est ce que j'ai essayé d'analyser d'abord,
avec
de mauvaise critique. C'est-à-dire que je ne dis pas que je nie pas l'utilité pratique du droit dans la société comme instance de régulation. Ce que je nie, c'est l'absolutisation du droit lorsque celui-ci est élevé à un niveau tel qu'il prétend dire le bien et le mal et la finalité des destinées humaines. Lorsqu'on demande au droit de dire qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la mort ? Quel est le sens ?
Alors nous sommes bien incapables de définir la vie.
C'est mon opinion. Oui. Je pense que, en tout cas, ça n'est pas le droit qui nous le dit. Là encore, je pense qu'on est dans de l'idéologie, c'est-à-dire dans la représentation du droit, plus que dans le droit lui-même. Le droit lui-même est un instrument qui peut être très pratique. C'est ce qui nous évite de nous entretuer. On l'a dit dès le début de la civilisation.
Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, un des traits de la civilisation occidentale, comme de rappeler régulièrement que précisément le droit est là, et qu'on doit s'appuyer sur le droit.
Oui, mais c'est là où j'introduis une notion qui est importante dans mon livre, qui est celle de formalisme. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, une certaine idéologie du droit, une certaine survalorisation du droit, nous conduit à survaloriser la forme par rapport au fond. C'est-à-dire à penser que nous sommes libres parce que nous avons en quelque sorte les garanties formelles de cette liberté. Mais la liberté, au sens où je l'entends, ça n'est pas seulement une question de garanties formelles. Peut-être que celles-ci sont une condition, mais ça n'est pas la fin ou l'achèvement de la liberté. La liberté, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'on éprouve existentiellement et laquelle le droit n'apporte pas de réponse en tant que tel.
Il y a une remarque, Laurent Fourquet, que j'ai relevée aussi. J'ai pensé à Philippe Muret, d'ailleurs, en lisant ce passage. Quand vous parlez du néant, donc par opposition, bien sûr, à la vie ou à la force de vie, vous dites « le néant n'interroge pas la vie, il veut simplement que celle-ci se taise à tout jamais ». Pourquoi veut-il qu'elle se taise et qu'on l'oublie à force de silence ? Parce que la vie est tragique.
Oui.
Elle est tragique car elle nous oblige à poser la question du sens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques jours, là je vais revenir dans, sur le terrain très trivial de la politique, le président Emmanuel Macron a eu l'occasion de dire dans une interview, il y a peu de temps, que le monde ou l'époque redevenait intéressante parce que précisément l'époque redevenait tragique. Ça vous surprend ?
Non, je pense c'est aussi ce que disait Raymond Aron, si ma mémoire est juste, en fait, en disant le drame, il parlait du président Giscard d'Estaing, en disant le drame, c'est que Giscard ne sait pas que l'histoire est tragique.
Oui, tout à fait, oui.
Non, je voulais revenir. Pourquoi, en réalité, le néant ne veut pas de la vie ? Parce que, d'abord, la vie, de son point de vue de néant, est inutile. Elle n'apporte pas plus de pouvoir. Elle n'apporte pas plus de domination, de domestication des choses. Au contraire, c'est une gêneuse. Elle gêne parce qu'elle introduit de l'imprévisibilité.
Vous vous souvenez de la phrase de Balzac ?
Allez-y.
Nous sommes de ce parti d'opposition qui s'appelle la vie.
Oui.
Non ?
Je pense que c'est une phrase qui est...
Je l'avais constamment à l'esprit en vous lisant.
Éminemment profonde et qui rejoint assez largement ce que je dis.
Je vais vous citer encore une fois, c'est quelques pages plus tôt, à page 35 précisément, vous dites « La présence du négatif au sein du positif, présence qui ne se résorbe jamais, porte un nom, on l'appelle le tragique, et là votre définition, est tragique, non pas la perception de la mort et du mal, ce qu'on perçoit parce que nous avons une conscience, bien sûr, mais la conscience que, à vue humaine, cette présence du mal et de la mort ne passera pas, qu'il nous faut vivre avec cette ombre. »
Regardez en fait tous les efforts qui sont conduits constamment aujourd'hui pour nier ce que j'appelle cette négativité, cette présence du mal et de la mort, pour l'effacer.
La cellule d'assistance psychologique.
Toutes les rêveries autour du transhumanisme, du post-humanisme, etc. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est le rêve de parvenir enfin quelque part à un endroit, à un moment où il n'y aurait plus de négatif.
Délivré
du négatif. Malade, où on serait plus mort, on serait régénéré, etc.
Homo festivus.
Où on opère l'homme de tout ce qui est tragique. Eh bien, moi, je dis que c'est le tragique qui fonde en réalité vraiment l'homme.
En fait, vous nous permettez de comprendre le début, enfin, le lien qu'il y a entre le tout début de la révélation dans la Genèse et la toute fin dans l'Apocalypse. Parce qu'en fait, je vois un parcours. Quand on fonde une société sur l'acceptation comme étant finalement un bien du fait originel, à savoir du désir de totale maîtrise par l'homme, on crée une société qui méthodiquement se propose finalement l'abrogation des 10 commandements.
De la loi tombée du ciel.
Vous pouvez les reprendre un par un, vous verrez qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on les abroge les uns après les autres.
Au nom des évolutions de la société.
Et où arrive-t-on ? Eh bien, on arrive à la constitution d'une sorte de bête. C'est-à-dire quelque chose qui, en fait, alors ça, c'est pas écrit tout à fait dans l'Apocalypse,
mais
est notre produit, est le résultat de nos actes agrégés qui n'ont pas visé cette fin, peut-être, mais qui ont souhaité aboutir à une maîtrise totale. Et en fait, maîtrise totale, on se retrouve totalement maîtrisé par la société que nous avons créée, qui est une sorte de bête.
Je repense à la phrase de Malraux
et la boucle est bouclée,
à propos de la Shoah qui disait « C'est la première fois que l'homme donne des leçons à l'enfer. »
Oui. Je pense que tel est le circuit. Donc, si on veut en sortir, il faut venir là où ça a dérapé, si je puis dire. Et je pense quand même que, sans idéaliser, évidemment, l'âge pré-moderne, mais enfin, il me semble que la rupture se fait au début de l'âge moderne, quand l'homme considère, par exemple avec Pic de la Mirandole, qu'il est le créateur de sa propre nature et que c'est bien. Et que c'est ça qui est admirable, qui fait qu'on est même plus admirable que les anges. C'est ce que dit Pic de la Mirandole, qui est en toute rigueur et complètement sûr. Si la perfection ontologique était la norme de dignité, les anges sont plus respectables que nous. Non, on est plus respectable, plus admirable que l'ange, parce que nous, on peut s'inventer, on peut décider de la signification même de l'univers et décider de ce qu'est le vrai, le faux, le bien, le mal. Or, et ensuite, la technique s'est mise au service de cette vision. Et je pense que c'est là que ça dérape. Il faut revenir à l'idée que l'homme, en fait, n'est pas le créateur de sa nature. Il a une nature qui est particulière, mais qui a des fins il faut l'écouter, elle a des normes objectives de développement.
Bon, et il y a une métaphysique.
Pourrait dire tout ça.
Avec Laurent Fourquet, puisque donc vous appelez-vous à une révolte métaphysique, vous dites qu'il s'attaquerait au système des forces qui nous empêche de vivre. Et vous concluez, Laurent Fourquet, en disant qu'il y a deux barbaries qui se présentent à nous. Vous appelez ça la barbarie du système, donc c'est le système de l'idéologie humaniste qui domine aujourd'hui, qui efface l'homme, dites-vous, au profit de sa détermination, et puis la barbarie du fondamentalisme. Comment faire entendre la voix ou la parole chrétienne dans cette confusion, ce chaos, cette vallée de méprise qui tapisse le sol?
C'est une question qui est posée depuis qu'il y a du christianisme, en réalité, c'est en étant chrétien, si j'ose dire. Mais j'apporte une réponse un peu sous forme boutade, mais réellement,
Pour dire les choses autrement, comment tuer le consommateur en moi ?
En vivant le christianisme, c'est-à-dire en vivant le don qui est en lui, cet esprit du don. En réalité, c'est pour ça qu'il est mortel pour le christianisme d'être amené à une espèce de forme primitive de l'humanisme, parce qu'on l'opère de ce qui fait sa singularité fondamentale, qui est une singularité du refus de se suffire, en quelque sorte, et de la nécessité de l'ouverture vers un quelque chose d'autre qui est le transcendant. C'est en revenant à cet esprit du don qui est à l'origine de la révélation chrétienne que, à mon avis, on arrivera à dépasser. Alors, parenthèse, ces deux barbaries, à mon avis, elles avancent conjointement. C'est ce qui est dit de plus
corrélativement.
En plus. Je lisais un article de Régis Debray ce matin dans Le Figaro qui disait des choses assez proches de ça, qui en réalité, tandis que le système du consommateur nihiliste avance, il génère en fait des contre-pies de plus en plus folles, de retour vers l'ancien, l'archaïque. Pourquoi ? Parce que ce modèle qui écrase tout, bah, il suscite une espèce de nostalgie. Et cette nostalgie, elle enfante des monstres.
Mais qui sera déçue à son tour.
Et qui sera déçue à son tour parce que elle est en réalité dans le système qu'elle prétend comprendre.
C'est la dépression circulaire.
Oui, c'est la dépression circulaire. C'est le fait que ce système de refus, en fait, moderne, de la modernité, il est compris dans la modernité. Et donc, nous n'en sortirons pas de cette manière-là. Nous n'en sortirons, me semble-t-il, que si on va jusqu'au fond des choses et qu'on pose la question de l'aliénation, qui est à la base même de ce processus que j'ai décrit tout au long de mon livre.
On va qualifier cette position, la vôtre, donc mettre un terme, encore une fois, à ce règne du consommateur, vous dites d'en sortir par le haut, à ce qu'on appelle l'altermondialisme, par exemple. Ou l'altermondialisme est-il qu'une variation de l'idéologie humaniste ?
Très franchement, je crois qu'il faut aller au-delà, en fait. Il faut aller au-delà et poser la question. Alors, ce n'est pas se réfugier dans les nuées, hein. C'est poser la question de savoir quel sort fait-on à l'absolu aujourd'hui. Moi, j'insiste sur ce point. Ce n'est pas un hasard.
L'absolu ou la question du salut ?
L'absolu est donc la question du salut. J'insiste sur ce point, hein, parce que c'est un élément important. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui la question de Dieu redevient politique en Occident. Elle redevient politique pourquoi ? Parce que tout notre système est fait pour la masquer, l'étouffer. Et donc, nous ne pourrons en réalité dépasser celui-ci qu'en revenant vers cette question de Dieu, mais en la prenant non pas comme une espèce d'antidote mortifère à la modernité, ce que nous proposent certains, mais comme quelque chose de totalement original, qui est une forme de désappropriation radicale de soi au service du monde. Ça viendra, ça peut venir. Je ne sais pas quelle forme ça prendra.
Comment
pas
ça peut nécessairement s'incarner
une, je ne pense pas que ça passera par la politique institutionnelle. Mais après tout, dans l'histoire, on a déjà eu des cas, en fait. Hein. Le Moyen-Âge occidental, il est fait d'une succession de gens qui se sont dit à un moment, je prends la parole du Christ au sérieux. Et ces gens-là, en fait, ils ont fait Cluny, ils ont fait Citeaux, ils ont fait Saint-François d'Assise. Voilà. C'est ce type de démarche qui viendra, du moins je l'espère.
Frédéric Guillot,
eh bien, écoutez,
la réponse que fait le christianisme à la faillite
de l'Église. Je citerai le psaume 9, « Lève-toi éternel, que l'homme ne prévale pas ». Voilà.
Merci infiniment Frédéric Guillot. Donc, je rappelle vos livres « Catholics We Love » de Paris au Cerf et puis « Dieu existe ». Et quant à vous Laurent Fourquet, je recommande très chaudement la lecture donc, de « Le christianisme n'est pas un humanisme », un ouvrage de 320 pages par l'édition Pierre-Guillaume Deroux, 26 €. J'espère que j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau et prochainement, précisément pour nous aider à nous orienter dans cette foutue époque.
Merci
à vous deux et merci, chers auditeurs, de votre fidélité.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.